France Inter.
Réalisateur et scénariste Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, plus connus sous le nom de leur inséparable duo Nicolas et Bruno, sont aussi doubleurs, acteurs, photographes et rigolos. Ils débutent en écrivant et en réalisant des clips musicaux et des films publicitaires, sont repérés par Thierry Ardisson et Frédéric Becbédé avec lesquels ils collaboreront. Ce sont eux qui signeront le scénario de 99 francs de Yann Kounen, adapté du livre de Becbédé. C'est sur Canal+ qu'ils se font connaître, d'abord avec leur série de sketchs diffusée dans Le Vrai Journal, Amour, gloire et débat d'idées, dans lequel il détourne une telenovela vénézuélienne en commentant l'actualité française. C'est aux films pornographiques et surtout aux films d'entreprise qu'il s'intéresse ensuite dans leur détournement, véritable marque de fabrique du binôme. En 98, l'émission Nulle part ailleurs diffuse le premier message à caractère informatif, début d'une série culte de centaines de sketchs sur des employés de bureau des années 70, réalisés à partir de véritables films institutionnels de l'époque. Pour la même chaîne, il signe la version française de The Office, Le Bureau, ainsi que celle de Vampire en toute intimité, adaptation de la série comique What We Do in the Shadows. Pour le cinéma, il réalise La Personne aux deux personnes, comportant le tube Flou de toi, Le Grand Méchant Loup, À la recherche de l'ultra-sexe et le dernier en date, en salle le 4 mars prochain, Alter Ego, avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Zabou Bretman, Marc Fraise et Olga Kurylenko. L'histoire d'Alex, un semi-chauve, dont le nouveau voisin Axel est le sosie parfait, mais avec des cheveux, plus de talent, de succès, d'intelligence et de savoir. Un double beaucoup mieux que lui, ce qui suffit à le rendre diabolique, bien que ce soit de façon positive. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Nicolas et Bruno.
Quelle carrière.
Oh là là.
C'est vous êtes impressionnant.
C'est fou.
Vous vous impressionnez vous-même là?
Un peu.
Peut-être un petit peu. En tout cas, c'était très complet.
Bon, oui, je sais. Bah, c'est la fin de cette émission. Merci
voilà.
D'être venu.
Merci. Bonne soirée à tous.
Merci.
Là, vous êtes côte à côte et je vois que ça vous perturbe parce que vous vous dites que contractuellement, vous devez vous regarder toutes les 5 minutes.
Bah oui, c'est ça. C'est ça. Normalement, on se regarde, on se jauge quoi, pour savoir qui va parler, voilà. Comment se partager les choses.
On aime bien le eye contact.
Ouais. Oui. Alors là, Nicolas se tourne de façon très inquiète vers Bruno, qui lui le fixe voilà. En le jugeant d'un air solennel.
Donc ça va passer par vous, Eva.
Oui. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé? Alors, est-ce que je dis à chaque fois vos noms de famille ou comme vous êtes deux, je dis Nicolas et Bruno?
Oh ouais, Nicolas, c'est plus simple, okay. Bruno aussi.
Hein. Oui. D'accord.
Ou peut-être ton nom de famille à toi.
Ouais, je préférerais.
Bruno, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé récemment?
Ah, ce qui m'a enthousiasmé, c'est très simple, c'est ce matin... une compile de revers de Roger Federer sur Insta. Je suis tombé, alors bon, l'algorithme ne ment pas, donc je tombe régulièrement sur ça. Et c'est un truc qui m'émerveille absolument. C'est un mélange d'émotions sportives et artistiques, je dirais.
Vous pratiquez le tennis?
Oui, mais vraiment, Roger Federer, il a arrêté il y a quelques années, mais il continue à être impressionnant quand on voit même des finales à couteau tiré. Il est toujours élégant, puissant. C'est vraiment ce mélange de sport et d'émotions esthétiques.
Nicolas?
Qu'est-ce qu'on avait dit que je dirais, moi?
Mais, vous êtes vraiment un vieux couple.
Oui. Le rire.
Je vois grandir mes enfants.
Non, je crois que tu... La dernière fois, oui. Tu m'as dit non, vraiment, la dernière émotion que j'ai eue, oui. C'était en salle.
Oui. Ah oui, oui, parce que c'est
alors,
un peu
allez-y.
Notre...
Oui, c'est très spontané.
Fait... Oui, parce que... Oui, bah oui, on prépare dans les vestiaires, quand même. Bah, oui, non, parce que en fait, nous, notre vie, là, depuis un bon mois, c'est d'être dans des salles de cinéma pour présenter notre film. Et donc, là, le dernier émerveillement, c'est des gens qui rigolent dans une salle devant notre film. C'est tellement fort, c'est tellement le but de tout ce travail, parce que c'est quand même un peu du travail, même si c'est très joyeux, c'est d'entendre les gens rire, les gens réagir. Là, la dernière projo qu'on a faite, c'était à Montreuil-sur-Mer, là où on a tourné dans le nord de la France, et on entendait les gens commenter. Alors, ils commentaient beaucoup, ils disaient « Ah, oh, bah c'est pas vrai, il va pas faire ça quand même !» ils vivaient vraiment le film, complètement au premier degré, et c'était vraiment un bonheur. C'est vraiment c'est très émouvant, quoi. C'est un truc qu'on a inauguré avec Alain Chabat, qui était le producteur de notre premier film, où on allait se cacher dans des salles le jour de la sortie. sortie, comme ça, pour écouter les gens rire. Et c'est quand même un des trucs les plus kiffants, pour
ça
employer un terme de jeune.
Les gens ne rient pas autant que vous l'espéreriez ?
Oui, alors il y a ça aussi, ouais. Parce qu'il y a toujours une petite prise de risque hein, dans le fait d'essayer de faire rire des gens. Mais il y a aussi, c'est-à-dire qu'on l'a tellement vu, c'est-à-dire qu'on l'a vu à peu près 8000 fois, ce film. Il y a même y a des trucs assez c'est étonnant, parce qu'il y a des gens qui rigolent à des trucs, on se dit « Ah merde, on avait oublié que c'était drôle !» Parce que pour nous, c'est plus drôle, ouais. Puisque c'est des blagues qu'on a écrites il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, voilà, c'est voilà l'émerveillement du...
Êtes-vous pour ou contre les moustaches ?
Plutôt pour.
On est plutôt pour.
Vraiment pour. Ouais, ouais. Y compris pour les femmes.
Oui, alors, ouais, mais ça, je vais révéler pourquoi tout à l'heure. Je n'y suis pas encore, parce qu'on va d'abord parler de votre parcours.
Pardon.
Vous êtes contre le céleri rémoulade, en revanche ?
Ah, on ne sait plus trop, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à force de rire de trucs, en fait, on finit par adorer. On se perd un peu dans le premier, le second, le troisième degré.
On est sur le fil.
Vous êtes sur... Oui, parce que j'ai une interview de 2016 où vous dites « On nous a forcé à en manger pendant des années, maintenant on se venge, c'est aussi simple que ça. Mais attention, ce n'est pas à l'individu céleri ni à l'individu rémoulade que l'on s'en prend. C'est à son concept, dans sa globalité. C'est pour ainsi dire le combat de notre vie. »
C'est vrai. Ah et depuis, on a fait.
Bruno, tu vois,
on a fait du chemin, je crois, depuis. On a fait du chemin et. Ouais, c'est vraiment sur le fil, ouais.
Alors, Nicolas et Bruno, est-il vrai que vous vous êtes rencontrés en classe de seconde en vendant des cakes dans la cour d'école ?
Complètement Nicolas. Vrai, des cakes, ouais, absolument.
Ouais. C'est drôle à prononcer cake.
Cake. À l'américaine, tu le prononces à l'américaine.
Oui, parce que
peut-être.
Cake, c'est un, je sais pas.
Ouais.
Ça me gêne.
Ouais, c'est complètement vrai. En fait, on finançait une pièce de théâtre pour faire ensuite un film. Tout ça s'est arrêté à la vente de cakes. Ah non, si, on a quand même fait cette pièce.
Oui.
On l'a faite.
Oui, on l'a jouée.
Mais
on
ne te promène donc pas toute nue de Fédou. De Fédo, pardon.
Fédou.
C'est autre chose. De Fédo. Et ouais, c'était très chouette. Bah, nous, on s'est rencontrés, oui, en seconde autour de ça, notre passion du cinéma, du théâtre, de l'humour, quoi, en fait. C'était ça, un peu le truc.
Vous êtes pratiquement un être hybride, un être à deux têtes.
Oui,
et peut-être que si on vous fusionnait, vous seriez David Charvet.
Ah ouais,
intéressant.
Tiens.
Ouais, physiquement, ça m'intéresse. Moi.
Non, ah ouais. En lettres. Juste en lettres.
Non, ce sera qu'en lettres. Ah, d'accord. Non, bah alors non.
Non, enfin, je sais pas, j'ai pas imaginé physiquement, mais peut-être.
Bah ouais, c'est exactement ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Des mecs qui continuent à rigoler, mais qui font du surf en même temps. C'est ça, hein, il était sur une plage.
Je sais pas, hein, ça fait longtemps
Malibu.
Que je le fréquente plus,
ouais,
mais.
Pas de nouvelles.
Pas de nouvelles. Vous arrêtez-il de vous disputer ? Parce que vous êtes indissociable.
Parfois, on n'est pas tout
Nicolas.
À fait d'accord et on se dit, tant mieux en fait, parce que si on était vraiment toujours complètement d'accord, ce serait un peu dommage.
Un peu ennuyeux.
Donc là, il y a des petits... Parfois, on est là, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Puis en fait, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente.
C'est même le principe de la création, en fait. Ce qui se passe dans un cerveau unique, quand on écrit un film, c'est toujours un débat, on soupèse des choses, etc. Bah, là, on le fait à deux, en fait.
Et vous ne vous êtes jamais lassés l'un de l'autre ?
Non.
Non.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Je m'appelle Charles. Je suis un chic type. C'est pour ça que les autres me respectent. C'est aussi parce que je m'impose physiquement.
Emmène-moi !
Moi, je suis Bertrand. Je n'ai aucun problème. Une femme sensationnelle. Des enfants extra. S'il y en a un qui est bien dans sa peau, ben c'est moi.
Oui, remarque, tu peux très bien me demander de te poster une lettre sans pour autant engager un processus érotique entre nous.
C'est vers moi qu'elle est allée. Pourquoi ? C'est pas à moi de répondre. Hein.
Une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison.
Nicolas et Bruno.
Excuse-moi, mais je t'aime.
Oui, parce que vous êtes des doubleurs fous et fantastiques. Film de 80, Clara et les chics types de Jacques Monet. Je crois que je vous avais reçu il y a des années et il se peut que je vous ai déjà passé un extrait, mais j'adore ce film et vous l'adorez aussi.
Ouais, oui,
et je voudrais qu'on
l'adore.
Le réhabilite pour les auditeurs qui n'auraient pas vu.
On est à fond. Mais oui, bah, c'est très peu connu. Quoi. C'est donc, on adore ce film. Ouais. Ouais, vraiment, on adore.
Et puis dedans, il y a Daniel Auteuil et Gérard Jugnot que vous avez fait tourner tous les deux quand même.
Exactement.
Absolument. Puis il y a surtout une grande partie de la troupe du Splendide qui a un peu forgé notre humour. C'est pas les seuls, mais vraiment on s'est rencontrés sur ces films-là et particulièrement sur celui-là qui est vraiment intéressant parce que c'est sur un groupe de mecs jeunes mais qui sont plus si jeunes, qui montent à Paris faire un concert, c'est une bande de potes, mais en même temps ils commencent tous à bosser et ils ont tous des problèmes intimes comme tout le monde et ils ont du mal à rentrer dans la vie adulte et ils sont c'est vraiment un film c'est un film hybride, c'est-à-dire c'est doux, amer et c'est à la fois super touchant et extrêmement drôle. Il y a Boursier aussi,
excellent Boursier dans ce film.
C'est un peu comme Je vais craquer, quoi. C'est un peu cette espèce de c'est-à-dire que nous on regardait ça, on se disait ah d'accord, ok, c'est ça, être adulte. Putain, ça n'a pas l'air facile et donc ça nous donnait pas tellement envie.
On a décidé de pas y aller.
On n'y allait pas.
Pas y aller vraiment,
En fait, on l'a regardé beaucoup, mais on a aussi beaucoup écouté parce qu'on écoutait les films en voiture quand on faisait des trajets en voiture.
Tous les deux.
On les mettait sur cassette audio pour les plus jeunes. C'est une sorte de format audio qu'on mettait dans des autoradios et on écoutait ça en voiture, comme si on le regardait, mais on avait juste le son. C'était vraiment c'était un film mouvant.
Vous pensez que ça a influencé votre sens du rythme? Parce que là, l'humour, ça repose quand même majoritairement sur le rythme aussi.
Sûrement. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on écrit. On s'enregistre, on se lit nos scénarios, on s'enregistre, on réécoute, on les expérimente comme ça au son. Et c'est vrai qu'on a un rapport au son qui est quand même assez fort, parce qu'on a passé des années en studio à enregistrer nos messages à caractère informatif. Le son, c'est très important pour nous. Et le rythme, c'est essentiel, absolument. Essentiel.
Frédéric Becbédé, quand il était publicitaire, vous a embauché comme créatif. Qu'est-ce que vous faisiez avec lui?
Nous, c'était un peu bizarre. On était un peu à part. On était un peu des petits jeunes comme ça. Quand Frédéric pouvait pas être là pour une réunion, quand il était retardé le matin pour cause d'une soirée non terminée.
Nous, on était là.
On était là et puis on faisait croire aux clients qu'on était assistant alors qu'on était un peu autonome. C'était un peu bizarre. Et donc c'était très marrant parce qu'on a travaillé avec lui au moment où il écrivait 99 francs. Donc,
Dont vous avez fait le scénario plus tard pour Yann Kounen.
Exactement, voilà, c'est ça. Quand il a été question de l'adapter au cinéma, Frédéric nous a proposé comme scénariste. C'était un peu notre premier scénario d'ailleurs. Et donc on a eu beaucoup, beaucoup de trucs à raconter et on a écrit un scénario de 500 pages, je crois, où on en avait gros sur la patate. Et on avait beaucoup de choses à raconter. Peut-être trop, donc il a fallu couper un petit peu.
Oui.
Puisqu'un scénario fait en général entre 100 et 150 pages.
Oui, c'est ce que je me disais malgré le fait que je ne sois pas dans le cinéma.
Oui, c'était trop. C'était objectivement trop.
En revanche, je suis dans les friandises et vous avez fait une publicité pour les chocolats d'Ain.
C'est vrai. Avec Frédéric aussi, à la Young à l'époque, c'est notre première réalisation en fait. C'est vrai que Frédéric, c'est quelqu'un d'important pour nous.
Absolument.
Très important, qui nous a fait confiance très tôt. Et donc on a fait cette pub avec des vrais daims. C'était une sorte de jeu de mots très malin entre le daim, le bonbon et le daim, l'animal que personne n'avait vu venir. Exactement. Et donc c'était un type qui avait rendez-vous avec une nana et sa nana lui disait viens avec des daims et il sonnait à sa porte avec des animaux, le daim. Et donc, on a tourné pour ça dans un zoo. C'était une catastrophe. Le daim ne se dresse absolument pas. N'adoptez pas de daim chez vous. Je vous en supplie.
Mais le dresseur ne nous l'avait pas dit avant.
Et le dresseur ne nous l'avait pas dit. Oui. Là, je dis oui, je vais travailler avec eux pendant des mois. Et puis, on est arrivé sur le tournage et il nous a dit les daims ne se dressent pas. Pas du tout, ils ne se dressent pas du tout.
Et donc
on a failli tous mourir, empalés par des daims complètement énervés.
Ils ont détruit tout le décor.
L'acteur voulait s'enfuir en courant. J'ai dit, j'appelle mon agent, je me barre, je vais mourir.
Ouais.
Et effectivement, il a failli mourir.
Oui, c'est vraiment un animal qu'on ne peut pas raisonner.
Galvanisé par le projet américain de guerre propre, Roberta a appris à ses dépens qu'il fallait d'abord ranger sa chambre avant de partir au front. Au même moment, frustrés par leur non-représentation au sein de l'ONU, les Ramon Pérez et un voisin déguisé en Saddam Hussein simulent une négociation au sommet dans leur maison de campagne. De son côté, à la clinique des Miss Roussos, le professeur Jiménez fait connerie sur connerie lors d'une greffe de moquette pectorale sur un boys guatapaltèque.
Waouh, mais ça pue le shit ici!
Ah, tu m'étonnes, Antonio! On s'en est roulé 25 et on en a mis dans le gâteau, on est complètement d'équerre! Ouais.
Ça, c'est Manuela qui vous a ramené de la guatapaltèque.
Soit on peut rien te cacher!
Et elle est excellente!
Moi, je dis que quelque part, on est un peu tous des rastaman. Laissons-nous pousser des dreadlocks et puis c'est tout!
Ah oui! Oula, t'as peut-être un peu forcé sur la quantité, Manuela. Attention, je vous rappelle que cet après-midi, vous avez votre tournoi de bridge, c'est pas le moment de vous exposer la tronche.
Attends, détends-toi, Antonio!
Mais ouais!
Mais oui!
Est-ce que vous vous souveniez de ce sketch diffusé en 97 sur Canal+ dans le vrai journal, Nicolas et Bruno?
Bruno,
ça fait très longtemps. Mais...
un tellement bon moment avec ça, c'était génial.
C'était à base de telenovelas, hein, des sortes de soaps très sirupeux vénézuéliens qu'on regardait sans le son. Totalement dans le désordre pour en raconter totalement autre chose.
On avait 90 épisodes qu'une production vénézuélienne a accepté de nous vendre pour en faire n'importe quoi. Et parce qu'il s'est dit, bon, de toute façon, je le vendrai jamais, cette série. Extrêmement violente. Ah oui, oui, des, vraiment très violente.
Et parce que vos matériaux, il faut le préciser, ne sont jamais comiques.
Non. Ah non,
oui,
non,
justement.
Oui, voilà.
Très important.
Oui, on aime bien partir de matériel au premier degré, quoi. Et oui, beaucoup de premier degré, là, vraiment, des trahisons familiales, des méchants, des gentils, et des grands coups de poing dans la figure.
Oui.
Donc ça donnait vraiment des images assez étonnantes. Et donc, on avait ces 90 épisodes, et puis on faisait du détournement à propos de l'actualité, de la politique française. C'était très marrant.
Ouais. D'où est parti à la recherche de l'ultrasex qui était d'abord message à caractère pornographique sur Canal+, Bruno?
Alors ça, c'était à l'occasion des 30 ans de Canal. Ariel Saraco nous a proposé, enfin nous a appelé, nous a dit voilà, on va faire un gros coup sur les 30 ans de Canal, rendre hommage à tous les piliers fondateurs de Canal+, et on a pensé à vous pour le cul. Quand on a commencé à faire du détournement dans notre salon, on le faisait sur plein de trucs, et notamment sur des dialogues de films pornographiques.
Ouais, des scènes de dialogue, quoi. Ouais,
des scènes de dialogue, quoi.
Celles qui précèdent.
Celles qui précèdent. On ne sait pas vraiment qu'on est dans un film de cul, mais il y a quand même des indices, notamment au niveau du brushing et de la taille des talons. Ouais. Et là, on nous a proposé vraiment de le faire en mode long métrage. Et donc, on a pris
2500 films.
On a visionné 2500
c'est
films.
C'est incroyable. Vous avez pas eu une overdose?
Overdose totale. Total, oui. Ouais. Bah, en plus, on n'avait jamais regardé, on se connaît depuis la seconde, mais on n'avait jamais regardé de films de boules ensemble. Donc au début, on était très gênés, et ensuite, c'était vraiment des garagistes, quoi. On était là, bon, bah allez hop.
On reconnaissait
les tubs des acteurs. On faisait des blind tests. On disait, tiens, c'est qui? Tac, on savait qui c'était. C'est effectivement overdose, oui. Et le soir, quand on se couchait, on avait des visions abominables. Alors, c'est plusieurs phases. C'est-à-dire, dans un premier temps, t'es là, t'es un petit peu énervé, tu dis « Ah d'accord, on a le droit de faire ça, c'est intéressant. » Et ensuite, c'est la nausée. Hein,
oui, c'est un harcèlement mental.
Donc, c'est des accélérations on a accéléré les films, et donc on se concentrait vraiment sur les parties dialoguées, quoi.
Parce qu'au final, c'est une comédie. Et c'est très pratique parce que le cinéma pornographique de ces années-là, qui était vraiment un cinéma qui fantasmait être un cinéma normal, exploitait tous les genres, c'est-à-dire les policiers, la science-fiction, etc. Et on a mêlé tout ça et on a créé une histoire à partir, au bout du compte, de 150 films à peu près, une histoire qui est à la recherche de l'ultrasex.
Ils ont encore aliéné un prolétaire. Encore un perdu.
Qu'est-ce que c'est?
Il est devenu responsable syndical.
Et il a aussitôt réprimé une grève sauvage avant de s'acheter une télévision à crédit.
Oh, que c'est triste, quel salaud! Si on leur grillait le poil sous les bras.
Nicolas et Bruno, vous avez dit dans une interview que vous faisiez du situationnisme sans le savoir.
Oui.
Puisque, en fait, le premier film qui est vraiment totalement dans votre genre, vous ne l'aviez pas vu à l'époque, c'est un film de 73, La dialectique peut-elle casser des briques, de René Vienet.
Absolument. De quoi qu'on s'agit-il a rencontré. René Vienet, donc situationniste, qui est parti d'un film... Hongkongais, je crois. C'est ça. Et il en a fait un détournement vraiment politique. Et c'est un film très important, en fait. Et de temps en temps, on entendait, tiens, ouais, les situs et tout, tout ça. Et nous, on ne comprenait pas trop. On ne savait pas trop de quoi nous parler les gens. Et très, très tard, on a rencontré René Vienné à l'occasion d'un festival. Et donc, on a projeté, je crois, l'Ultrasexe et la dialectique peut-être casser les briques. Et le type était génial, très sympa, très marrant. C'est vraiment étonnant, quoi. Enfin, ce qu'ils ont fait à l'époque, alors c'est très politique, hein. Alors là, pour le coup, le rythme est très lent, mais c'était passionnant, quoi, de rencontrer une sorte de papa, mais qu'on ignorait.
Exactement.
Oui.
Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de Lily la tigresse de Woody Allen?
C'est le premier film de Woody Allen, qui est aussi un détournement, et qui est un détournement particulier parce que c'est à partir d'un seul film. C'est-à-dire qu'il a pris un film et l'a complètement détourné, refait les voix. Et c'est marrant parce que c'était un vieux fantasme pour nous aussi, qu'on a pu... en quelque sorte réalisé des années plus tard sur Vampires en toute intimité, qui est What We Do in the Shadows, qui est un faux documentaire sur des vampires.
Il a en coloc. Ah,
voilà, qui vivent en coloc. Et
on en a fait une version française. Une version française, on a appelé ça une version française originale, où on s'est complètement réapproprié la bande-son. Et donc, à l'origine, ça se passe à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et là, on a installé l'histoire à Limoges. Et il travaille à la COGIP, il s'appelle Jean Bernard.
Alors, dites ce qu'est la COGIP pour ceux qui ne le savent pas, mais ceux qui vous connaissent le savent, évidemment.
Oui, alors la COGIP, c'est notre entreprise. On ne sait pas ce que veut dire COGIP. Les gens qui y travaillent ne savent pas non plus ce qu'ils y font. Et on en est les heureux PDG depuis une trentaine d'années. Donc on met de la COGIP un peu dans tous nos films. Elle peut prendre différentes formes. Ça peut être une multinationale en restructuration. Elle est souvent en restructuration d'ailleurs. On aime bien la mettre un petit peu en danger.
Source de malaise.
C'est ça. Et là justement dans notre film Alter Ego, c'est une petite PME de province qui n'a pas bougé depuis 1984.
Il y a des t-shirts COGIP dans le film.
Oui.
Parce que demain c'est l'an 2000.
Prenez la parole, prenez-la mon vieux.
Je ne veux plus travailler avec toi, Berthier.
Attends, tu me demandes de renvoyer Berthier, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça.
Eh oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dégueulasse.
Mais je te l'ai déjà dit, je ne supporte plus ta moustache.
Doucement, Ménard. Est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte?
Mais pas une seule fois en 25 ans de maison.
Ah ouais?
Et à la COGIP hier.
Attention Berthier, s'il y a eu le moindre problème avec la COGIP, il faut raser mon vieux.
Mais je veux pas raser, cette moustache c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
Non, d'une pipe Berthier, ce n'est qu'une moustache, c'est quand même pas grand chose, merde.
Attendez, tout va trop vite là, tout va beaucoup trop vite.
C'est vrai Berthier, vous seriez très potable sans moustache. Tiens, ta braguette est ouverte Ménard, c'est jamais...
Oui, je sais, oui, j'ai un slip en laine, ça me donne très chaud, c'est insupportable.
Et si j'arrivais à me teindre la moustache couleur peau, ça se verrait moins, non? Non, ça marche pas, désolé, Berthier. Ça restera toujours des poils et ces poils sont un danger pour la boîte. Alors c'est la boîte ou la moustache. Ok, je m'incline.
C'était vraiment très intéressant.
1998 dans Nulle part ailleurs, message à caractère informatif. Vous avez été connu du grand public avec ça, Nicolas et Bruno. Est-ce que vous traînez toujours sur ce que vous appelez le grey net, c'est-à-dire pas le dark net?
Oui.
Alors, dites ce que c'est.
Le grey net, c'est le net, non pas le dark net, mais le net qui intéresse personne. C'est des vidéos qui font 8, 9 vues, mais qui pourtant, parfois, sont celles qui nous intéressent.
Ouais. Alors, lesquelles? Quel type de vidéos?
C'est des vidéos, c'est des gars qui mettent en ligne des anciens films institutionnels de leur boîte. Ils ont filmé leur machine-outil, ou alors, des gars qui mettent en ligne, ils ont créé une entreprise de speed dating et ils ont fait une sorte de pub et ils essayent d'en faire la promotion. C'est un peu, en fait, c'est pendant le message à caractère informatif deuxième saison qu'on est rentré en contact avec des collectionneurs aux États-Unis notamment, avec lesquels on échangeait.
On a fait des échanges parce que nous, on avait un stock de messages à caractère informatif, d'archives qu'on avait récolté pendant notre première saison de 2 ans entre 99 et 2000, hein, c'est ça. Mmh. Et 30 ans après, enfin 20 ans après, ouais, on a fait une deuxième saison pour Canal et pour Poulpe, pour Crac Crac. Et là, nous, on avait du matériel à échanger, quoi. Donc, on faisait vraiment du troc avec des mecs, bah, vraiment super bizarres, quoi, qui faisaient des collections de films d'entreprise.
Peut-être qu'ils se disaient la même chose de vous.
Et très probablement, oui, c'est ce qu'on s'est dit, ouais. Et donc on disait, tiens, on a ça, c'est un film allemand de BASF, très sympa, ok,
est-ce
super.
Est-ce que ça t'intéresse ?
Est-ce que t'as des rushs de films d'entreprise ? Ouais, j'ai un mec devant des camping-cars qui est très sympa, très énervé. Ok, super, on prend. Et donc, c'était un système de troc comme ça, c'était pas mal.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ouais, mais là, ça va. Non, c'est. Ça va pas être possible, ça.
Ah, tu vois le voisin derrière ? C'est dingue, non ?
Ah, il ressemble à quelqu'un ? Julien Courbet ?
Ce mec, c'est mon sosie parfait, mais avec des cheveux.
Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir.
Je t'assure que c'est dans ta tête, tout ça.
Putain, je suis un peu rouillé le matin.
C'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Ce type, c'est moi, en mieux.
Je fais des chouquettes, cuites sous la cendre. J'ai appris ça chez les Touaregs.
Bah ouais, évidemment. Que je me mets tout le monde dans la poche, nanani nanana.
Vraiment, ouais, la tête de con. C'est vraiment la tronche du con, du gros connard de merde.
Là, on a entendu Marc Fraise, Blanche Gardin et Laurent Lafitte dans la bande-annonce de votre film Nicolas et Bruno qui sortira le 4 mars prochain, Alter Ego. C'est donc Alex qui a un nouveau voisin, Axel. Ouais. Les deux sont joués par Laurent Lafitte, pardon de révéler en secret, mais...
Ouais, mais ça, on le comprend au bout de 30 secondes.
Oui. Et alors, son voisin est mieux que lui dans tous les champs.
Ouais.
Et vous l'aviez d'abord imaginé comme un spectacle, c'est-à-dire comme Zaï 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 que vous aviez adapté de Fab Caro.
Oui, c'est un truc, Nicolas, un peu compliqué. On voulait faire un roman photo avec un type chauve qui rencontrait son double avec un superbe brushing. Et puis, on photographiait ce roman photo. Ensuite, on le projetait dans une salle de théâtre et on faisait toute la bande-son en dessous comme on avait fait avec Zaï Zaï Zaï. Et puis, on raconte tout ça à nos producteurs en disant voilà, à nos producteurs de cinéma, les frères Vérag d'atelier de production. Et on leur dit, ouais, voilà, on va faire ça, peut-être qu'après on fera un film. Et là, ils nous ont dit, et pourquoi vous ne feriez pas un film avant ? Et là, on leur a dit, ok, ouais, c'est vrai, on va faire ça avant, ce sera mieux, parce qu'on avait très envie de tourner. Et puis, on a changé complètement, du coup, l'angle du film. On a rendu ça beaucoup plus contemporain, plus actuel. On peut se projeter dans les personnages, quoi. Enfin, vraiment, je crois qu'on se projette dedans. Hein.
Oui, la thématique du double a toujours été très présente chez vous. Vous avez fait La personne de deux personnes, avec Daniel Auteuil et Alain Chabat, à la suite d'un accident de voiture. L'esprit de Gilles Gabriel, un chanteur qui n'a plus beaucoup de succès, se retrouve coincé dans la tête de Jean-Christian Ranu, comptable à la COGIP, bien évidemment. Et je crois que vous adorez un film avec Michel Serrault qui s'appelle La gueule de l'autre.
Ah oui,
ah oui.
Pierre Tchernia.
Ça, c'est vraiment un de nos films de chevet. C'est un de nos films de chevet, oui, il y a une histoire de sosie dedans, bien sûr. Et puis, c'est vraiment.
C'est deux frères, en fait.
C'est deux frères jumeaux, et il y en a un qui est homme politique, qui est menacé, donc il consent à se faire remplacer par son frère, ouais, qui est un acteur totalement raté, qui est devenu prof de tango.
Superbe.
Et qui le remplace et qui voilà, c'est un film pour Serrault, écrit pour Serrault, livré sur un plateau, c'est extraordinaire. C'est, oui, vraiment un film d'acteur, pour le voir jubiler à le voir.
Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'on voulait faire. On voulait faire un film sur le produit, quoi. Voilà, vraiment, c'est vraiment un film pour Laurent Lafitte.
Ah oui, alors vous avez réussi à rendre Laurent Lafitte, qui est tout de même beau, très laid. C'est-à-dire qu'il ressemble à Carlo le Calamar dans Bob l'éponge. Je me permets de le dire parce qu'il est magnifique dans la vie.
Oui, voilà. Superbe.
Qu'est-ce que vous avez changé sur lui? Vous lui avez ajouté des cernes, c'est pas possible.
Bah oui, en fait, d'abord pour le convaincre, on avait fait un montage Photoshop de lui à moitié chauve, mi-chauve, et on lui a montré, et donc il nous a dit, mais vous allez me raser pour le film? Alors on lui dit, bah ouais, mais je vais être mais horrible. Il a dit, oui, non, enfin, oui, peut-être un peu. Et il nous a dit, mais il est hors de question que je ne fasse pas ce film. Et c'était vraiment, c'est important pour lui, c'est une sorte d'engagement, quoi, physique. Il aime bien ça, s'engager physiquement, se transformer. Et...
Zabou Breitman aussi, vous lui avez mis une grosse moustache.
Oui.
Sans raison.
Oui, sans aucune raison. Alors là, on lui a dit, Zabou, tu es probablement la seule actrice au monde à pouvoir accepter de porter une moustache, un petit duvet de femme, brun, sans qu'on en parle jamais, que ce soit pas un sujet. Là, il y a eu un petit silence, elle nous a dit, mais carrément, bien sûr, mais évidemment que je vais le faire. Voilà, c'est quand même la patronne de la COGIP, hein, donc oui, moustache oui, obligatoire.
Bien sûr, c'est vrai, comme tous les patrons.
Bien sûr.
Alors, il y a un petit côté, la moustache, justement, d'Emmanuel Carrère, dans lequel un type se rase la moustache et personne ne s'en rend compte et ça le rend fou.
Absolument. Oui, c'est le petit twist supplémentaire, c'est que, voilà, il est seul avec son problème. Et, enfin, il n'est pas totalement seul parce que nous, spectateurs, on voit bien que le mec lui ressemble.
Ouais, il y a 8 millions de personnes.
Oui, quand même. Mais c'est le début d'une sorte de solitude au milieu des autres, en fait. Il ne peut pas communiquer son problème puisqu'il est seul à le vivre. Et c'est le début d'une névrose qui file vers un troisième acte où les cartes sont rebattues. Et chemin faisant, on va aborder un peu, en fait, plein de sujets sur, sur l'obsession la perfection, de donner le meilleur de soi-même, montrer le meilleur de soi-même, puisque ce type, il est un peu la pire version de lui-même. C'est un peu son profil Instagram qui vient s'installer à côté de chez lui dans la maison mitoyenne.
La meilleure version de lui-même.
Oui, pardon.
Oui.
C'est un peu doux amer et d'ailleurs, entre chaque jour qui passe, il y a un bruit de film d'horreur. Parce que c'est quand même une tragédie, bien que ce soit très drôle.
Oui, c'est des petits indices où on se dit, ça va peut-être pas se passer exactement comme on imaginait. C'est-à-dire qu'on voulait pas faire un film de high concept, quoi, un film à sketch, de oh, ils se ressemblent, ils se ressemblent pas, personne ne voit la différence et tout. Ça, en fait, on voulait dépasser ça assez rapidement pour aller à notre troisième acte. Voilà, ça c'était vraiment notre objectif. Et pour en faire un vrai scénario avec une vraie fin.
Avec un vrai twist. Scénario avec un vrai twist, c'est vrai. Et alors, je ne dis pas pourquoi je pose la question, mais utilisez-vous ChatGPT et si oui, quel usage en faites-vous?
Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est lui qui a écrit notre scénario.
Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout, on l'utilise parce qu'on adore écouter sa voix, qui est absolument ridicule.
Il fait semblant de respirer, de réfléchir. S'il fait tu viens de me poser une question super intéressante, Nicolas, j'adore. Et il fait des trucs comme ça.
Ah
mais on adore. Ouais. Alors nous, on lui a fait, parce qu'en fait, effectivement, à un moment, Alex consulte ChatGPT en le faisant parler pour lui demander des conseils. Enfin, on va pas tout raconter,
mais
donc du coup, on a fait répéter, nous, à ChatGPT 20 fois, ou 200 fois la même phrase. Et à un moment, il s'est inquiété. Il a fait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ouais.
Qui joue ce rôle-là?
Oui, c'est vraiment lui, ouais, en personne.
Vous l'avez payé?
On a demandé l'autorisation.
D'accord.
Oh merde.
Car oui, voilà, je fume des clopes dans un blocos. j'ai mis ma carte bleue. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas. C'est comme ça. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé.
C'est votre choix, Bruno Lavène, musical. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé, du groupe Les Clopes.
Absolument. C'est magnifique. C'est Nicolas qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Et c'est vraiment un truc extraordinaire. C'est cette manière de... D'abord le type, hein, vous l'avez vu, commence des phrases, mais sans savoir si vraiment il va les finir. Et surtout, il y a cette espèce de manière d'assumer la déprime, alors que c'est généralement quelque chose qu'on cache, et d'en faire quasiment une frime, vraiment qui est génial. C'est un truc sur lequel on a pas mal joué dans le message à caractère informatif. Mmh. C'est la déprime assumée est vendue comme de la frime. Mmh.
Et quel est votre rapport à la déprime d'ailleurs? Parce que vous êtes connu comme un tandem très drôle et vous faites rire, vous êtes obsédé par le fait de faire rire, toute votre œuvre va en ce sens. Mmh. Quel est, vous, votre rapport à la mélancolie, Bruno?
On l'a dilue dans le rire.
Vraiment, ça fonctionne?
Ah ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est
oui, ça marche pas mal. Ouais. Oui, ça marche pas mal, ouais. Ouais. Oui, comme on aime bien parler des trucs un peu sérieux, en les planquant un peu sous le rire, quoi. Mmh. Ouais, c'est notre truc. C'est assez classique.
Pas peur de toi, il ferait tout pour moi. Il va te faire très mal, mon mec. Il aime bien boire des coups, il aime bien mettre des coups. Il va te faire très mal, mon mec. C'est pas rigolo.
Ah non, mais ces phrases.
Il va te faire très mal.
Oh non. Pourquoi on n'a pas deux heures?
C'est votre choix musical, Nicolas Charlet, Mon mec de Philippe Catherine et Alka Balbir.
Ah ouais. Ben oui, c'est un peu comme un court-métrage. Ça, moi, on aime bien ça avec Bruno, les chansons qui racontent des histoires. Puis là, il y a un bon twist à la fin, c'est très rigolo. C'est vraiment... Puis on adore Philippe Catherine. Ben, Philippe Catherine nous a accompagnés depuis qu'on est tout jeune, quand il faisait de la bossa et tout, on était complètement fans. Moi, je me suis marié sur du Philippe Catherine. J'ai adoré. Et puis mes enfants ont grandi avec Luxor et tout, enfin avec la banane et tout, donc c'est vraiment quelqu'un qui nous accompagne, qu'on adore, qui est complètement à part, qu'on adore vraiment. Et puis Alka, on a tourné avec elle dans le bureau, donc c'est aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup.
Alors, il y a un chanteur que j'ai découvert grâce à vous.
Et les jeunes en ont fait une loi, c'est la banque de toutes les tendresses, c'est une arme pour tous les combats, ça réchauffe et ça donne du courage. Et ça n'a qu'un slogan au partage. Au clair de l'amitié, le ciel est plus beau. Viens voir l'amitié, mon ami Pierrot.
Vous la connaissez par cœur, Nicolas. Oh là Bruno, là. Vous êtes épatant. C'est Herbert Pagani, l'amitié.
Mais oui. Ah bah alors là, vraiment, on est vraiment au cœur du mix second degré, troisième degré, premier degré. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tellement ri parce que c'est hyper emprunté. C'est vraiment
ça chalerise.
Ouais, c'est vraiment complètement du wedge et tout. C'est vraiment. On peut vraiment se marrer énormément à écouter. Il a fait une comédie musicale qui s'appelle Mégalopolis, qui a hurlé de rire. Et en même temps, on a vécu des moments tellement forts en écoutant Herbert Pagani, des soirées à faire des grandes embrassades, en buvant beaucoup d'alcool, avec des amis. C'est vraiment...
Amical, des orgies amicales.
Ah ouais, c'est extraordinaire. On en a vraiment les larmes aux yeux. J'adore ce type.
Sur nos 10 ans, comme deux amants, comme deux aimants, j'étais le moins, t'étais le plus. Faut que je fasse le point, je suis plus focus. Flou de toi, complètement flou. J'ai perdu la diapositive.
ça c'est un tube. Nicolas et Bruno, c'est Flou de toi qu'on peut entendre dans le film La personne aux deux personnes.
Ouais.
Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce morceau qui n'a jamais quitté ma psyché?
Ah ouais, mais nous non plus, mais vraiment, ça c'était un moment, mais...
C'était formidable d'abord, parce que on voulait créer un tube universel pour ce chanteur, Gilles Gabriel, qui rentre dans la tête de Daniel Auteuil, Ranu.
Et qui disparaît au bout d'une minute de film.
Oui.
Donc on voulait le faire exister, et... Un peu à l'image des films de Bollywood, on voulait on a sorti le disque avant, donc comme ça il existait bien dans les têtes quoi. Donc c'est Nicolas Herrera qui a écrit ce morceau. On l'a enregistré avec des requins de studio des années 80. C'était génial à faire, mais ça on a adoré ça.
Et puis en plus, Alain Chabat rêvait depuis longtemps de chanter, donc il a pris des cours de chant. Il s'est vraiment lancé à corps perdu là-dedans, et c'était ça donne ça quoi.
Doublé par les frères Costa, ceux qui faisaient énergie, les jingles des années 80. Et c'est eux qui doublent les voix en faisant. Ils ont toute une technique de multipass où c'était vraiment passionnant.
Ouais.
That's a good, I'll drink us. Hats and horns.
Of the grooviest people I've ever known.
J'aime bien qu'on découvre des choses dans l'émission. Nicolas et Bruno, je crois qu'un film que vous adorez, c'est Bob et Ted et Carole et Alice de Paul Mazursky.
Absolument.
Ouais.
C'est un film assez avant-gardiste, je crois que c'est 69 ou 70, qui parle de ce qui se passe vraiment à ce moment-là, la libération sexuelle. Et c'est sur des bourgeois californiens qui décident du jour au lendemain de dire « Ok, on va être des couples libérés et on va vivre vraiment l'expérience de la révolution sexuelle. Nous aussi, quarantenaires, on peut y aller. » Et on les retrouve au lit et ils sont totalement coincés, mais ils essayent de le faire. C'est super drôle.
Je crois que vous aimez aussi beaucoup Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson.
Ah oh ouais,
c'est
ouais.
Un très beau film, mais il met très mal à l'aise.
Ah oui, on adore. Mais enfin, il y a beaucoup de films comme ça qui nous font beaucoup rire, comme Canine par exemple, ou The Lobster. C'est bizarre parce que parfois on dit tiens, regarde, prends ce DVD, c'est hyper drôle, et les gens sont très inquiets. par exemple, Canine, c'est pas forcément un film à hurler de rire, mais nous, ça nous émeut beaucoup, quoi. On adore ça. Parfois, c'est vrai qu'on se marre à des trucs pas très drôles.
Alors, il nous reste quelques secondes pour vos découvertes. Nicolas, vous, c'est, je vous cite, un objet en forme de cuisine, celle d'Alexandre Gauthier.
Bah oui, la cuisine d'Alexandre Gauthier, parce qu'en fait, on a tourné à Montreuil-sur-Mer et on a déjeuné, dîné dans tous les restaurants d'Alexandre Gauthier, qui a 5 restaurants là-bas. Et c'était une aventure géniale, parce qu'on a vécu avec toutes ses équipes, il y a au moins 100 personnes, il embauche plein de gens, c'est quelqu'un très important dans ce territoire, et qui a un talent fou. Et donc on allait dans ses restos, on a rencontré la culture d'équipe, ces gens du Nord qu'on a adoré. Et c'était, du coup, on y retourne tout le temps, c'est vraiment une super rencontre. C'est vraiment, ce type est extraordinaire.
Bruno, c'est le tampon encreur en la personne du tampographe et son œuvre, Vincent Sardon.
Absolument, Vincent Sardon qui a voué sa vie à cet objet et qui l'a élevé au rang d'art. Alors, c'est pas n'importe quel tampon, c'est des tampons en quelque sorte où on imprime tout haut ce qu'on pense tout bas.
Des insultes.
Voilà, notamment des insultes. J'ai raté ma vie, par exemple. Ou alors,
j'en ai rien à foutre.
Il y a un tampon aussi qui dit nous avons bien lu votre manuscrit et le comité de lecture a attrapé un cancer en le lisant, tellement il est chiant. c'est vraiment une ode à ce qu'on n'ose pas dire et qu'on a envie d'imprimer. Et surtout, c'est très beau. Il fait vraiment des tampons, notamment polychromes, qui sont absolument magnifiques. C'est vraiment la réunion du beau et du rire, qui est un de nos credos aussi.
C'est un poète, Sardon. Ouais. Vraiment,
Bah oui, la réunion du beau et du rire. On n'a pas eu le temps de parler de photographie, mais ce sera pour une prochaine fois.
Okay.
Merci beaucoup, Nicolas Charlet et Bruno Lavenne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alter Ego sort en salle le 4 mars prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Florian Dorimini.